Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Alors nous sommes ici à la bibliothèque André Malraux de Saint-Brieuc. Nous sommes avec l'équipe de TXT, de la revue TXT. Pour une exposition, il y a aussi une exposition consacrée aux livres d'artistes dans lesquels vous intervenez, Christian Prigent, en tant qu'écrivain, poète, dans cette bibliothèque. Alors, la revue TXT, une des revues qui a été une revue marquante et importante de ces 50 dernières années, une revue tente qui a percuté la littérature, une revue formée à l'origine par vous-même, Christian Prigent, avec Jean-Luc Steinmetz, Jean-Pierre Verhaeghen, Valère Novarina, j'en passe, qui a été fondée en 1969 par ce groupe-ci, qui s'est arrêté en 1993 et qui est repris en 2018. Voilà, alors ma première question, est-ce que vous pourriez tout simplement rappeler le contexte de l'époque dans lequel cette revue a été fondée et l'intention que vous aviez pour qui était à l'origine de cette revue?
La revue, comme vous le disiez, a été fondée en 69 par Jean-Luc Steinmetz et par moi. Juste après, quelques mois après les événements de mai 68. Et dans le contexte politique et intellectuel et culturel sur lequel beaucoup de choses ont été écrites, donc sur lequel il n'y a pas spécialement à revenir, mais surtout dans un contexte où, pour de jeunes écrivains, moi j'avais 23-24 ans à cette époque-là, il y avait eu une forte déception, liée à la retombée politique, à la déflation qui avait suivi les événements de 68, et puis lié également à, on va dire, la faiblesse ou l'obsolescence déjà de tout ce qui, pendant ces événements et autour d'eux, s'était publié côté poésie, sous forme de poèmes publiés dans des revues ou de plaquettes de poésie, et puis sous la forme aussi assez spécifique à la période de mai 68, de tous les graffitis d'allure plus ou moins poétique qui... pouvait se lire sur les murs. Voilà. Donc nous étions dans une sorte de sentiment d'insuffisance par rapport à ça, une sensation qu'il fallait faire autre chose dans la pensée des questions littéraires et des questions poétiques en particulier, et puis aussi dans le travail d'invention de solutions poétiques nouvelles, inédites, enfin différentes en tout cas de ce qui était le courant de la poésie telle qu'elle se publiait alors. Voilà, et pour cette raison-là, parce que c'était une façon de compter sur ses propres forces, de disposer de son propre organe pour publier les textes et faire ce travail de réflexion, la décision a été prise de publier une revue dans des conditions matérielles misérables, puisque aucun d'entre nous n'avait d'argent et qu'aucun éditeur n'était derrière cette revue pour la soutenir, enfin en tout cas pour les premiers numéros, mais avec une espèce d'enthousiasme comme ça et de violence comportant une bonne part de plaisir à embêter tout le monde, c'est-à-dire à publier des choses que tout le monde trouvait incompréhensibles, illisibles, obscènes, provocantes, quoi, voilà. Et puis bon, les choses ensuite ont suivi leur cours avec beaucoup de modifications, de transformations, avec des gens nouveaux qui sont arrivés, Novarina, Verhaeghen, comme vous le disiez, etc., jusqu'à l'interruption de la revue en 93. Et sa reprise, donc, puisque vous parliez de cela.
Justement, pour revenir, donner aux auditeurs, leur permettre de visualiser les formes de poésie, de littérature même, ou d'écriture, de littérature que vous que vous avanciez dans cette revue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Vous en avez parlé un petit peu. Il y avait de la satire, beaucoup, du carnavalesque, une sorte d'humour un peu féroce contre les formes dominantes de la poésie de l'époque et des discours dominants.
C'est le fait d'un choix littéraire qui vient de la politique et qui n'a jamais quitté l'illusion, je ne sais pas, en tout cas l'idée que un travail sur la langue a des incidences politiques, c'est-à-dire est un travail d'intervention et de transformation sur les énoncés linguistiques dominants suffisamment fort pour que, non pas qu'il change quelque chose en soi, mais pour qu'il instille perpétuellement le doute sur la pertinence de ces représentations et leur capacité à représenter l'expérience des individualités, des sujets, des singularités. Voilà. Donc le sens même de la recherche avait ce sens de provocation, de critique, de satire pour les raisons politiques et philosophiques aussi, on peut le dire que je dis. Et puis bon, quelqu'un qui écrit, il écrit parce qu'il a lu. Donc ce qui nous avait bouleversé dans les lectures de la fin de l'adolescence et qui nous bouleversait dans les lectures que nous faisions à cette époque-là, c'était des choses qui comportaient cette dimension satirique, mais qui comportaient aussi un goût pour les formes bouffonnes, pour le burlesque, pour une certaine absence de sérieux quoi dans l'opération littéraire. La façon de surligner les effets formels, que ce soit des effets formels typographiques, enfin ce qu'on voit sur une page, ce que par exemple avait beaucoup mis en avant le dadaïsme des années 1910-15, et peut-être plus encore les futurismes russes et italiens de la même époque. Voilà. Que ce soit cet aspect-là, ou que ce soit plus encore l'aspect sonore, vocal, oral de l'expérience linguistique. Et là aussi, il y avait des modèles, les futuristes russes, le Zaoum des futuristes russes, les expériences vocales des Italiens, les performances des dadaïstes. Bon, il y avait quelque chose là d'une vitalité qui, d'une certaine manière, n'appartenait pas du tout à l'espace littéraire, en tout cas pas à la vie littéraire, mais qui était pour nous la condition d'une vitalité toujours présente de ce que veut dire justement écrire et faire l'expérience de la littérature. Voilà. Bon, entre ces modèles et ces principes, plus les outils de réflexion que donnait le discours théorique de l'époque, abondant, hein, riche, dense, hein, côté psychanalyse, côté sociologie, côté politique aussi, bien sûr. Bon, on était dans une... On marchait pas à découvert, quoi. On marchait armé surmonté de pas mal de parapluies, quoi. Même si l'idée n'était pas de trimballer ses parapluies, mais d'aller soi-même s'exposer à l'intempérie. Mais malgré tout, hein, des garde-fous théoriques, des modèles vénérés, voilà. Et puis associés d'intervention politique.
La forme revue, l'objet revu aussi. Vous parliez d'énergie dans les textes, mais qu'est-ce que permettait aussi la revue en tant que telle, qui est un objet collectif par définition, voilà, qui a été un creuset pour le travail de chacun d'entre vous qui écriviez, et qui correspond peut-être aussi à quelque chose qui émerge dans une époque. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'actualité aussi à travers une revue.
Une revue, pas toutes les revues, parce que y a de nombreuses revues, comme le disait Tiffany tout à l'heure, qui sont des sacs à textes. Enfin, pas forcément de mauvais textes, hein, mais qui mettent à la queue leu-leu des textes choisis pour leur qualité, et souvent cette qualité est réelle, mais dont les sommaires ne se constituent pas à partir de l'idée que l'ensemble du sommaire constitue une machine de pensée et de propositions formelles. Voilà. Parce qu'une revue, si on la fait dans cet autre sens, celui que je viens de dire, à savoir machinerie de pensée, élaboration d'inventivité formelle qui peuvent fonctionner dans la différence, mais qui conservent toujours une proximité l'une à l'autre, raison pour laquelle elles ont été choisies. Une revue, pour moi, ça a un premier effet positif, ça défait le narcissisme. C'est-à-dire, comment dire, c'est la machinerie collective, alors, sans illusion de communautarisme idyllique, hein, mais c'est la machinerie collective et ce qu'elle exige de discussion et d'élaboration assez pointilleuse, et d'autant plus pointilleuse qu'elle n'a pas de critères précis pour déterminer ce pointillisme. Hein, voilà. Bon, c'est cette machinerie qui fait sens. Et donc cette machinerie incarnée dans des sommaires. Voilà. Et là, la position de chacun, et c'est pour ça que je trouve formidable que dans le nouveau texte, il y ait ces pages collectives qui jouent l'anonymat, sur la non-signature. Quoi. Bon, c'est cette machinerie qui fait sens dans l'époque, c'est-à-dire que dont le caractère de machinerie et de collectif autorise un branchement autre que subjectif, autre que narcissique, autre que imbu de sa propre singularité, qui permet un travail intellectuel de se laisser pénétrer par l'époque, parce que l'époque exige, en tout cas de ce qu'on croit qu'elle exige, bon, ça je ne le sais jamais, mais et de ce que au discours dominant de cette époque, aux énoncés dominants de cette époque, on peut rétorquer, quoi. Sachant bien que ce qu'on leur rétorque à ces énoncés n'est pas quelque chose qui les fera changer, qui peut les faire changer. Mais ce qu'on leur rétorque, c'est quand même une façon de mettre dans leur yin un petit point de yang, ou dans leur yang un petit point de yin, et qu'elles ne se croient pas susceptible d'absolutiser les valeurs qui les homogénéisent. Ouais. Il faut être l'empêcheur d'écrire en rond.
Très bien. Eh bien, cet empêcheur d'écrire en rond, il continue, il renaît en 2018, notamment avec Tiphaine Garnier, Bruno Ferme, Émilien Chéneau aussi, qui participent à cette revue. Justement, comment vous envisagez les formes de continuité et en même temps d'évolution de la revue, voilà. Comment se passe justement cette renaissance d'une revue et comment s'est-elle passée ?
Pour repréciser un petit peu la manière dont ça s'est passé, en fait en 2018, l'ancienne équipe de TXT, presque au complet, s'est retrouvée et a lancé l'idée voilà, de refaire un numéro 32 intitulé « Le retour ». Mais au départ, c'était plus par plaisir de se retrouver, voilà, un peu comme un gag ou une blague. Et le principe de ce numéro, c'était que chaque membre du TXT historique invitait un auteur plus jeune à participer. Et donc le sommaire de la revue s'est constitué comme ça. Et donc Bruno Fern et moi-même, nous faisions partie de ces auteurs invités ou parrainés. Si. Je ne sais pas trop comment il faut le présenter. Et donc ce numéro-là, il a eu quelques lecteurs et on s'est dit pourquoi pas prolonger cette expérience et faire vraiment revivre TXT. Ce qui nous y a poussé, c'est qu'on se reconnaissait complètement en fait dans les principes théoriques qui étaient rappelés dans ce numéro du retour, posait les bases donc la revue telle qu'elle existait, mais aussi appelait à une poursuite, puisque le constat d'insuffisance des formes poétiques, littéraires dont parlait Christian à l'instant, bah avec Bruno, on le partageait aussi en 2018. Et par ailleurs, on avait le sentiment que justement les revues existantes, dans lesquelles il nous est arrivé de publier des textes, étaient justement des sacs à textes, pour reprendre l'expression. Et voilà, on a eu envie de forger nous-mêmes notre outil, justement, pour publier des textes qui nous semblaient pertinents par rapport à l'ambiance actuelle.
C'est-à-dire que les enjeux que vous éprouviez en 1969, vous les éprouvez aussi aujourd'hui ?
Mutatis mutandis, les mêmes. Les formes que prennent la réponse critique à ces discours ambiants peuvent être très différentes, voire étonnantes par rapport à l'idée qu'on se fait de la ligne TXT historique, quoique à l'intérieur du TXT historique, il y ait eu aussi des évolutions, évidemment, dans les formes publiées.
Bruno Fern.
Pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Christian, et Tiffaine. Ce que je pourrais dire, c'est que notre souci, c'est un travail de la matérialité de la langue. C'est très important pour nous. Mais comme le disait Tiffaine et Christian aussi, avec les deux phases de la vie de la revue, qui résonne aussi avec l'époque. Hein, donc l'époque, les discours dominants et les formes littéraires aussi dominantes. Hein, c'est pour ça que dans notre il y a un côté un peu caustique qui existait déjà dans l'ancien TXT, dans le nouveau TXT, vis-à-vis des formes littéraires dominantes dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas.
Voilà. Les formes littéraires, mais aussi des discours dominants que subissent aussi les gens. Est-ce que vous pourriez en donner quelques exemples, notamment Émilien Chesneau, qui a publié justement dans ce dernier numéro, qui est le numéro 35, qui s'intitule « Exego ». C'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce texte ?
Oui, alors le texte, en fait, il est né tout simplement d'une sorte de malaise personnel assez important. Parce que je me sentais un petit peu... Enfin, quand on ouvre ses mails, quand on se balade sur Internet, maintenant on est obligé de valider des cookies tout le temps, de s'inscrire, on reçoit des spams, on est l'adresse, en fait, on est l'objet d'une adresse permanente, quoi. Ça, je m'en suis aperçu que c'était vraiment une... On s'adresse à nous dans une langue qui n'est pourtant... Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui nous parle. C'est... une machine qui nous parle, ou un algorithme, ou une intelligence artificielle, et dans des langues, dans des formes de langues très infantilisantes et très très déréalisantes aussi, des fois des formes même de français très approximatifs, mais qui peuvent être rigolos, mais au-delà de ça, c'est quand même assez... disons que pour quelqu'un dont le travail est de justement se saisir de jetons linguistiques d'époque ou de jouer sur des représentations linguistiques, des formes, des morceaux de langue et de travailler dessus. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce type de travail, ça me semblait intéressant de prendre ce matériau très impur et d'en faire quelque chose d'un peu différent, aussi pour répondre à ce malaise dont je parlais au début, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui pourrait me permettre de respirer un peu par rapport à cette question. Bon, bien sûr, c'est un peu illusoire, parce que au final, ça revient tout le temps. Enfin, il suffit, on se balade dans le métro, il y a des pubs, dans la rue, il y a des pubs. Enfin, tout est très oppressant. Mais là, j'ai pu, l'espace de quelques semaines, quelques mois pendant lesquels j'ai composé ce texte, m'aérer un peu la tête et surtout retourner un peu les... Enfin, prendre une sorte de distance critique avec ces formes d'adresse très, très... très 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 harcelante, quoi, très invasive. Et le texte consiste tout simplement à prendre ces rappels de d'inscriptions, ces consignes un peu infantilisantes, des formules qui sont issues de sites pornographiques, ou enfin plein de choses comme ça, et à les passer dans une sorte de moulinette qui fait hésiter le texte entre le français et l'anglais. En gros, la syntaxe anglaise est plus ou moins importée dans le français, avec des petits effets en plus rajoutée. Et donc l'idée étant de rendre encore plus déréalisante et plus absurde, de pousser un peu les curseurs de ce langage qui est déjà très pauvre, et d'en faire quelque chose d'un petit peu amusant, quoi.
Tout à l'heure, Christian Prigent, vous avez montré le premier numéro de TXT, qui était très simple.
Très pauvre.
Je ne serais pas permis de dire ça, et c'est pas le cas. Justement, cette revue qui était éditée chez L'Hurlure, est-ce que vous appréhendez aussi la dimension des nouveaux outils, c'est-à-dire pour aller sur d'autres formes? J'imagine qu'à l'époque, en 1969, il y avait moins de formes, moins de possibilités de créer des revues.
Oui, je ne vois pas ce qu'il aurait pu y avoir d'autre. Et puis, il y a aussi le fait que, comment dire, fabriquer une revue, je parle au plan strictement matériel, et coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Parce que là, maintenant, quelqu'un qui sait manier un traitement de texte, un logiciel de mise en page, et bon, c'est à la portée maintenant du premier utilisateur venu, bon, il livre à l'imprimeur un produit qui est quasiment fini. Donc il a fait, lui, gratuitement tout le travail, ou elle a fait, elle, gratuitement tout le travail. Et l'imprimeur, lui, il met ça dans son propre ordinateur. Et bon, il appuie sur un bouton. Et bon, et les seuls frais sont les frais de papier, finalement, pour caricaturer, quoi. Moi, quand TXT a commencé, en passer par l'imprimerie était coûteux, parce qu'on apportait des manuscrits, au mieux des tapuscrits, et l'imprimeur faisait payer la dactylographie, la mise en page, enfin, faisait payer tout à juste titre, hein, bon, à juste titre. Et donc tout cela était coûteux. Donc les tout premiers numéros de TXT sont de présentation très, très misérables, comme je le disais tout à l'heure, principalement pour cette raison, parce que fait par des gens qui ne disposaient d'aucun budget, soutenu par aucun éditeur ou sponsor que ce soit, donc avait cet aspect-là aussi. Ça a beaucoup changé les conditions de publication par rapport à ça. Mais quant à l'utilisation d'autres types de supports, la seule chose, ça a été pour nous, ceux qui ont fait TXT à l'époque, le passage à l'oral, quoi, c'est-à-dire les interventions orales sous leur forme radiophonique aussi, déjà pour reprendre quelque chose que c'était dans ce que disait Tiffaine tout à l'heure. Mais bon, les lectures ici ou là, dans des librairies, des lectures, des théâtres, pour que un autre contact avec un lectorat ait lieu, parce que ce type d'intervention, c'est une autre forme de publication, enfin au sens strict de la notion de publication, c'est-à-dire une autre forme de rencontre avec un public et de partage avec ce public de l'expérience qui a lieu dans les textes. Ça a beaucoup accentué, je crois, le souci de l'oral, du sonore, du vocal dans les textes que TXT a publiés. Oui.
L'idée de s'emparer aujourd'hui d'autres formes de médias que le forme papier, est-ce que vous y réfléchissez ?
Je crois qu'on est assez attaché à l'objet revue papier. Enfin, en tout cas, on n'est pas. C'est pas demain qu'on fera une revue entièrement numérique. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que la revue papier, c'est un ensemble aussi de contraintes. On a l'objet clairement devant soi, et donc c'est des contraintes de longueur, de composition, d'équilibre. Là, en plus, nous, on a des doubles pages en couleur qu'on farcit de petits textes écrits à plusieurs mains et anonymes. Donc voilà, c'est un objet structuré et qui impose aussi ses contraintes. Le numérique, aucune contrainte de longueur, aucune contrainte économique aussi. C'est ça. Donc, mais voilà, on va continuer à publier cette revue sous forme papier, en essayant, par ailleurs, de développer au maximum les rencontres, les lectures dans les maisons de la poésie, les bibliothèques, pour essayer de sortir d'un cercle de lecteurs qu'on sait être tout de même assez modeste. Là, depuis quelques mois, on travaille à un projet un peu périphérique de TXT qui s'appelle Les Oraux. C'est un projet radiophonique et donc qui consiste en la publication, enfin la diffusion d'une séquence courte de lecture, enfin plutôt d'un objet radiophonique. C'est pas de la lecture à voix nue, mais c'est la lecture montée avec un arrangement sonore. Et on publierait, on diffuserait donc une séquence par semaine sur toute une année de diffusion sur diverses radios locales.
Bruno Fern, merci. Tiffaine Garnier, Christian Prigent, Émilien Chesneau, merci à vous pour cet entretien. Donc à Bibliothèque André Malraux à Saint-Brieuc. Merci à vous.
Parce qu'à Berlin, il y a des chats sauvages et des voitures en rue. Parce que nos veines font l'inventaire de longs couloirs.
Petite bonne femme, petit rien, petit verre.